Pour amorcer la saison, Bernard Delépine et son équipe vont vous parler de la prière. De la prière, évidemment, mais laquelle ? La prière de la louange. Prière de louange. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, Bernard et son équipe vont vous le dire.
Parole protestante sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre qui vous présente cette émission en compagnie de Jean-Didier Rousseau ainsi que de Daniel et Bernard Delépine. Nous sommes tous quatre actifs à l'église protestante baptiste d'Angers, dite Communauté du Colombier. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Commençons par définir ce qu'est la prière de louange. Jean-Didier ?
Eh bien, pour parler de la louange, la Bible emploie 13 mots différents en hébreu, dont le « Alléluia » que nous connaissons tous, et 15 mots différents en grec. C'est dire la diversité avec laquelle on peut la comprendre ou l'exprimer. Elle peut être méditative ou exaltée, dite ou chantée. Elle peut être ou non accompagnée de musique. Certains l'accompagnent d'une expression corporelle, de gestes. La définition du dictionnaire Larousse dit sobrement « parole par laquelle on fait l'éloge de quelqu'un ». Ce qui est assez proche de sa signification biblique, hein, au travers de notre louange à Dieu, on fait l'éloge du Seigneur.
Très bien. Puisque vous évoquez le terme d'Alléluia, qu'en dit la Bible, Daniel ?
Alors, l'Alléluia, c'est une expression composée de deux mots hébreux. L'impératif Allélu, qui signifie louer, et Yah, qui est l'abréviation de Yahweh, traduit par l'Éternel. On le trouve par exemple dans le psaume 104, je vous lis le premier et le dernier verset, parce que le psaume est assez long, qui donne bien la signification de ce qu'il veut dire. « Mon âme, bénis l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Oui, je veux te dire merci Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. » Et dans le Nouveau Testament, le mot « Alléluia » n'est utilisé que 4 fois. Uniquement dans le livre de l'Apocalypse et dans un seul passage au chapitre 19, dont je cite un verset, « J'entendis une voix forte dans le ciel, semblable à celle d'une foule nombreuse. Elle disait « Alléluia, louez le Seigneur, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. »
Alors si je comprends bien, la louange, c'est un hommage.
Oui, la louange est en fait de rendre hommage au Seigneur. C'est le sens même du mot culte, hein. Mais ce terme n'est pas réservé au côté spirituel. On peut aussi louer une personne, dire d'elle toutes sortes de belles choses, vanter ses mérites. Et quand je dis ça, je pense à Tante Yvonne, qui était la cheville ouvrière de notre association La Fraternité à Angers. Une femme peu ordinaire qui a été honorée en recevant une médaille avec nombre d'éloges. On assiste aussi à cela lors des mariages, mais encore plus souvent lors de sépultures. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que, lorsqu'on fait louange d'une personne, il est préférable de la connaître. Je connais quelqu'un à qui on avait demandé de faire l'éloge d'un maire. Ah, il a été vite arrêté dans son exercice lorsqu'il a parlé d'un homme extraordinaire. Ah ben, manque de peau pour lui, le maire était une femme. Je trouve que c'est cocasse. Et en même temps, pour faire l'analogie avec le Seigneur, il me semble que pour louer le Seigneur, pour faire son éloge, pour lui rendre hommage, une bonne connaissance de qui il est et de ce qu'il fait s'impose. Il faut d'abord bien le connaître.
Oui, j'entends bien, Bernard. Vous êtes en train de me dire que pour louer le Seigneur, il faut le connaître. Alors, comment fait-on pour le connaître, Daniel ?
Alors, pour répondre à votre question, Jean-Pierre, nous pourrions déjà faire état de ce que la Bible nous en dit. Des femmes et des hommes n'ont eu de cesse de le louer, et on peut tirer un enseignement de leurs expériences. Ainsi, ils nous enseignent tout ce que Dieu accomplit dans le passé, le présent et le futur. Pour prendre un exemple, le psaume 102 dit « Les cieux sont l'ouvrage de tes mains ». Ce verset nous suggère couvrir les yeux sur toute sa création et la source d'une louange intarissable. Qui ne s'est jamais extasié sur une forêt enneigée ? Qui n'a jamais cherché à voir le soleil, le lever ou le coucher du soleil ? Qui n'a jamais fait « Waouh » devant des eaux turquoises ou transparentes sur un fond d'île paradisiaque ? Ou, comme notre texte le dit, on s'extasie tout en regardant la voûte céleste. Je note juste au passage que l'humanité tout entière bénéficie de la création extraordinaire de Dieu.
Oui, moi je souscris tout à fait à ce que dit Daniel. Il y a la louange pour qui il est et une autre pour ce qu'il fait. Les psaumes sont remplis de louanges au Dieu créateur et pour certains nous enseignent aussi sur la personnalité de Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, hein, disent plusieurs textes. La miséricorde de Dieu, c'est à la fois sa grâce, sa bienveillance, on peut dire aussi sa bonté, son amour, son attachement, sa faveur, son affection ou sa compassion, sans oublier sa clémence et son côté bienfaiteur et peut-être plus inattendu son côté aimable. Nous n'avons pas le temps ici de lire le psaume 136, si vous vous rappelez bien, c'est celui où les 26 versets commencent par une affirmation et se concluent par « car sa miséricorde dure à toujours ». Pour répondre à votre question, Jean-Pierre, oui, il faut connaître Dieu pour le louer. Et quoi de mieux que d'apprendre à le connaître déjà par la Bible, puisque c'est lui qui en est l'auteur. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, le fait de vivre aussi des expériences personnelles et quotidiennes avec lui, ce qui permet de joindre à notre connaissance intellectuelle une connaissance d'intimité sentimentale, même puisque plus on le connaît, plus on l'aime.
Merci Jean-Didier. Bernard ?
Oui, moi je suis assez enthousiasmé par ce que disent Daniel et Jean-Didier. Dieu est un créateur génial, un artiste, un vrai quoi. Hein. En effet, comment ne pas s'extasier devant lui ? Nous parlons de louer Dieu pour qui il est, nous pouvons aussi, comme le souligne Jean-Didier, le louer pour ce qu'il fait jour après jour dans nos vies. À l'instar du roi David qui s'exprime dans le psaume 23, nous pouvons nous aussi dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ah ben David, il savait de quoi il parlait, hein, puisque lui-même avait été berger avant de devenir roi. Il est en train de louer le Seigneur en faisant ce genre de prière. « Seigneur, comme je prenais soin de mon troupeau, de mes brebis, de mes agneaux, toi Seigneur, tu prends soin de moi ». C'est ce que l'on appelle aussi l'action de grâce. L'action de grâce concerne plutôt ce que Dieu accomplit dans notre vie personnelle. Lui dire merci, ce n'est pas seulement faire preuve d'une bonne éducation, car par l'action de grâce, nous reconnaissons l'action déterminante de Dieu, certes à côté de nos propres efforts, mais il est quand même bon et juste de reconnaître que nous devons tout au Seigneur. Non seulement c'est juste, mais ça a aussi la vertu d'être un bon remède contre notre orgueil ou contre l'égoïsme.
Merci Bernard. Avant d'aller plus loin, nous écoutons « Je chante car tu es bon » par le collectif Embrase nos cœurs.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Suite de notre émission Parole protestante sur RCF Anjou, nous sommes toujours en compagnie de Daniel, Jean-Didier et de Bernard. Nous parlons de la prière de louange. Pourrait-on évoquer maintenant comment chacun vit la prière de louange ? Daniel, vous avez été durant des années responsable d'une chorale et du groupe de louange dans votre église. Avant de nous parler, comment vivez-vous la prière de louange au quotidien ? Si tant est-ce que c'est tous les jours que vous louez le Seigneur.
Alors, je ne parlerai pas de la chorale ni du groupe de louange, mais plutôt de ma façon de vivre la louange. Bernard a parlé tout à l'heure d'action de grâce. Je parlerai aussi de reconnaissance. Être reconnaissant, c'est se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies, dans la mienne en l'occurrence, comment il est intervenu dans telle circonstance, comment il a répondu à mes prières. C'est l'apôtre Paul qui dit dans l'épître aux Colossiens « Soyez reconnaissants ». C'est une formule quand même assez forte, « Soyez reconnaissants ». Dans des moments plus difficiles, il est bon de se rappeler ce qu'il a déjà fait et dire merci. C'est le début de la louange. Donc oui, j'essaie d'être reconnaissante pour la vie, le salut, la paix, etc. Et j'enchaîne avec la louange qui glorifie Dieu, soit en chantant des chants, soit en priant, ou en lisant un psaume. C'est pas non plus un copier-coller chaque jour, ça peut varier selon ce que je vis dans le moment présent.
Et vous, Jean-Didier, ça se passe comment ?
Oui, eh bien, je loue le Seigneur à des moments différents de la journée. Je veux dire que je suis admiratif de la création et je remercie Dieu pour la beauté et la complexité de la nature. Je peux le remercier le soir avant de m'endormir pour la journée qui vient de s'écouler ou au réveil pour celle qui vient. Concernant les chants d'adoration, j'aime écouter et chanter des louanges. Mais ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, je me souviens, dans la période de ma conversion qu'à l'église, j'avais hâte d'entendre l'enseignement apporté et je trouvais que le temps de louange était un peu trop long. Bon, tout simplement, je vivais ma foi naissante d'une façon intellectuelle au lieu de la vivre avec le cœur. D'ailleurs, pour louer Dieu, il faut le connaître et l'aimer. Et comme je ne savais pas comment l'aimer, eh bien, je le demandais dans mes prières. C'est du genre « Seigneur, aide-moi et apprends-moi à t'aimer ». C'est tout simple, mais Dieu répond aux prières et il change progressivement mon cœur. Et je continue toujours à faire cette prière. Concernant les chants de louange, j'ai remarqué qu'en les écoutant et en les chantonnant à différents moments de la journée, que ce soit en bricolant, en jardinant ou en voiture par exemple, cela change les choses et mon cœur. C'est comme si ça me rapprochait de Dieu et me mettait dans de meilleures dispositions. À l'inverse, en écoutant les chants du monde, même si les mélodies sont parfois très belles, eh bien, ça peut me rendre irritable. Je crois bien que ce que nous écoutons nous influence.
Mmh. Bernard, vous qui êtes pasteur, la louange, comment la vivez-vous ?
Afin de ne pas répéter ce qui vient d'être dit, un aspect de ma louange consiste à une forme que nous n'avons peut-être pas l'habitude d'aborder sous cet angle. Et je m'explique. L'épître aux Romains, au chapitre 12, nous enseigne ceci. « À cause de la bonté que Dieu t'a témoignée, consacre-lui ton être tout entier, que ton corps, tes forces et toutes tes facultés soient mises à sa disposition comme une offrande ou une louange vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là un culte ou l'hommage spirituel qui a du sens, un culte logique conforme à ce que la raison demande. » Voilà, ce texte, en fait, c'est, pour moi en tout cas, la prière de louange, ce n'est pas uniquement chanter des cantiques, c'est aussi se donner entièrement au Seigneur. C'est plus que d'aller régulièrement à l'église ou être à son service. Ce que le Seigneur me demande là, et certainement à nous tous, c'est de lui offrir comme une louange ma vie, mes talents, ma famille, mon caractère, ma personnalité, peut-être mes conceptions, mon emploi du temps, et j'en passe. C'est vraiment tout un programme qui est appelé à se renouveler jour après jour. Donc la louange pour moi, ce n'est pas que du chant, mais c'est un style de vie. J'aime énormément ce verset du prophète Ésaïe au chapitre 54 qui dit « Explose en acclamations et vibre ». Ah bah oui. Oui, presque chaque instant, j'ai envie d'exploser en acclamations pour mon Dieu et vibrer pour le Seigneur. Et vous alors, Jean-Pierre, comment vous louez le Seigneur ? Peut-être par de la musique antillaise ?
Non, pas particulièrement, Bernard. Bien que le gospel soit un genre musical très en vogue dans le bassin caribéen, en fait, je ne sais pas vraiment chanter aussi. Je loue le Seigneur plutôt avec mon cœur. Mais parfois, il m'arrive de chantonner à mi-voix pour ne pas gêner mon voisin et surtout pour éviter de faire tomber la pluie. Daniel, vous qui avez une jolie voix, est-ce qu'il y a des moments plus propices quand et où louer Dieu?
En fait, la Bible regorge de textes faisant référence à la louange. Ainsi, le Nouveau Testament dit en Thessaloniciens 5 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et les psaumes, qui sont de la louange chantée par excellence, nous disent « Je chanterai à l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai, ou toujours, sans cesse, tant que je vivrai. » Alors, où le louer? Dans l'Ancien Testament, le psalmiste n'avait pas un lieu particulier pour le louer, mais il aimait se trouver dans la maison de Dieu, le temple, pour être dans sa présence. Il le dit dans le psaume 27, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. » Alors c'était aussi le lieu où le peuple se retrouvait pour les fêtes, les sacrifices et où la louange montait vers Dieu. Aujourd'hui, le Nouveau Testament nous enseigne que chacun de nous, individuellement, est un temple pour l'Esprit Saint. Ce qui fait que notre vie est toujours disponible, ou devrait être toujours disponible, pour louer Dieu où que nous soyons.
Oui, comme tu dis si bien, Daniel, nous sommes individuellement le temple du Saint-Esprit, ce qui n'empêche pas non plus de louer Dieu en Église. En fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais plutôt l'un et l'autre. L'exhortation à l'église d'Éphèse au chapitre 5 nous est adressée aussi à nous directement. Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père, toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Outre les temps de célébration, nous passons 24 heures sur 24 des chants en diverses langues dans notre église. Nous organisons aussi, de temps à autre, des soirées de louanges. Par définition, la louange n'est que très rarement silencieuse ou introspective.
En définitive, la louange, c'est quand même souvent des chants, non?
Ah ben ça, c'est une conception très occidentale. Je me rappelle d'un temps de prière de louange extraordinaire en Afrique. Les personnes venaient jusqu'à l'estrade, chantant et en dansant, afin d'y apporter quoi? Ben, d'y apporter leur offrande. La danse, le don financier, ça aussi, c'est de la louange. Ne la limitons pas à notre culture. Les chrétiens en Asie la vivent différemment. Et j'ai été aussi très impressionné par la louange très spécifique d'Amérindiens.
Ah bon, la louange par la danse, vraiment? Vous pouvez en dire un peu plus là-dessus?
Oui, bien sûr. Ah, nous ne sommes malheureusement pas habitués parce que on nous parle de vivre les célébrations avec ordre, presque en silence, comme s'il ne fallait pas déranger le Seigneur. Le roi David, lui, il a dansé devant le Seigneur, presque nu d'ailleurs, et ça a beaucoup plu à l'Éternel. Enfin, en tout cas, qu'il chante et qu'il danse, pour lui, le fait d'être nu, j'en sais rien, mais en tout cas, il l'a honoré. Dans notre église, il arrive que des personnes louent le Seigneur avec de l'expression corporelle. C'est en l'honneur du Seigneur que c'est vécu et non pour vivre une prestation personnelle.
Merci Bernard.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous abordons la dernière partie de notre émission. Pourrions-nous aborder celle-ci par les bienfaits de la prière de louange, non pas pour Dieu mais pour nous-mêmes?
Oui, il y a des livres dont le titre est évocateur, « De la prison à la louange »,« La puissance de la louange » ou « Réponse à la louange ». Ils nous enseignent de manière très pratique que lorsqu'on loue le Seigneur, on se détourne de nos préoccupations. Le premier titre explique que souvent, nous sommes emprisonnés dans nos soucis, nos problèmes, on n'arrive pas à en sortir, on tourne en rond. Pour l'auteur, la solution est de commencer à louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il fait. Cela a pour conséquence que l'on se détache de nos regards sur les soucis pour les porter sur Jésus. Et dès lors, nos problèmes commencent à être moindres, voire ils disparaissent. La louange, c'est se détourner de notre nombrilisme pour regarder à Dieu et ainsi apprendre à lui faire confiance. C'est ce qu'il appelle aussi la puissance de la louange, qui réussit à dynamiter les montagnes qui se dressent devant nous. L'apôtre Paul et son collaborateur Silas ont vécu cela dans une prison. Malgré leur turpitude, le récit d'Acte 16 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusqu'à ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Après avoir pris des coups et enfermés en prison, ils chantent les louanges de Dieu, ce qui change complètement leur situation. »
C'est sûr, la louange nous apporte de la joie, de la sérénité, de l'apaisement. Quand je loue, je me sens être renouvelée dans mon amour pour Jésus. Et comme le dit Jean Didier, en louant, on se détourne de nos problèmes. Nos difficultés, nos soucis ont moins d'impact sur nous. Le psaume 18 dit « Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. » C'est vrai que ça demande une certaine volonté de louer dans les moments plus difficiles, mais c'est efficace et ça devient un style de vie. « Seigneur, je suis accablé, alors je me tourne vers toi et je te loue quand même parce que tu es au-dessus de tout ça. »
Ben moi, je pense aussi à deux textes qui se trouvent dans le deuxième livre des Chroniques. L'un se trouve au chapitre 5 et dit que lorsque il sonnait de la trompette et que, avec ceux qui chantaient, lorsque ces deux-là s'unissaient, musique et chant, eh ben, d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, eh ben, il disait, l'Éternel est bon, car sa miséricorde durera toujours. Eh ben, à ce moment-là précis, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée de la présence intense de Dieu. Vous voulez que la pièce où vous vous situez se remplisse de la présence de Dieu? Ben, écoutez, acclamez-le, louez-le, faites-lui honneur par vos lèvres. L'autre texte se trouve dans le même livre au chapitre 20, et Israël est contraint à guerroyer contre les ennemis. Comme une arme particulière, le roi Josaphat fait appel encore à des chantres et à des musiciens. Et le texte précisait, ben, au moment où l'on commençait les acclamations et les louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les ennemis d'Israël et ils furent battus. Lorsqu'on loue le Seigneur, celui-ci place des embuscades contre nos ennemis, les puissances du mal, hein, j'entends, pas votre voisin, afin que de donner la victoire. C'est aussi ce que Moïse dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous, la louange est vraiment efficace.
Merci Bernard. Je vois que nous pourrions encore et encore parler de la prière de louange. Merci à vous trois, notre émission s'achève. Si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que nous sommes invités à prier Dieu par des louanges en tout temps et partout, que le fait de le louer nous apporte aussi beaucoup de bienfaits personnels.